Gloire à Dieu, nous allons prier. Merci. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Nous voulons recevoir ta parole. Ouvre, Seigneur, notre intelligence par ton esprit. Révèle-toi à nous, parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi et surtout comprendre ta pensée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. À partir du premier verset. Jean au chapitre 8, premier verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà l'objet de notre partage ce soir. Donc je rappelle le principe, c'est une étude biblique. Donc nous retirons les enseignements. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Mais nous sommes toujours limités. Vous savez, les choses de Dieu sont tellement bonnes. Et lorsque on retire les trésors que le Seigneur a à nous donner, on a envie d'être comme Pierre, vous savez, des gens qui sont restés avec le Seigneur et lors de la transfiguration, parce que c'est tellement merveilleux. Alors on nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Alors, le verset 6, nous, en tout cas, m'interpelle. Il disait cela, donc c'est un commentaire de Jean. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des interventions, on peut se manifester. Alors, moi, j'ai une question. Lorsque le commentaire nous dit « Il disait cela pour l'éprouver », afin de pouvoir l'accuser. Alors, quelle accusation il cherchait à faire ? En quoi cherchait-il à éprouver Jésus ? Ils viennent avec un cas qui est avéré, un cas véritable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, puisque si c'était faux, Jésus aurait repris ces gens. Alors, c'est un fait qui est là, qui est palpable, en plus, flagrant délit d'adultère. Donc, c'est un élément qui est véritable. Mais le commentaire nous apporte quelque chose en disant, il disait cela pour éprouver Jésus, pour l'accuser. Alors, Ma question, c'est la première question. En quoi cherchaient-ils à éprouver Jésus et quel était l'objet de leur accusation? Oui.
Donc, en fait, ils voulaient le prendre, le piéger pour contester et mettre en pratique ce que Moïse avait donné dans cette loi où on devait lapider une femme adultère, sachant que Jésus n'allait pas être d'accord pour tuer une femme, mais qu'il allait être piégé en devant...
D'accord. Est-ce que tout le monde a compris Donc, si je pose la question dans l'assistance, on va pouvoir me dire ce que la sœur Chantal vient de dire. Oui.
Oui, moi, compléter ce que la sœur Chantal a dit, dans les deux cas, Jésus, lui, il prônait la paix, le pardon et tout ça. Et Moïse, la loi déclare que quand une telle femme commet l'adultère, on doit lapider. Dans les deux cas, Jésus devait être coincé. Soit il demande à ce qu'on pardonne la femme, et là il remet en cause la loi de Moïse. Soit il demande à ce qu'on applique la loi de Moïse, et il contredit ce que lui-même il dit. Et dans les deux cas, ils étaient sûrs et certains qu'il allait le coincer quelque part. Je okay. pense que c'est ça l'idée.
Oui, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Ou une question à poser. Donc, le piège consistait justement à ce que, dans tous les cas, puisqu'elle a été attrapée en flagrant délit, la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. Mais de l'autre côté, ils savent que Jésus enseigne la miséricorde, l'amour, le pardon. Quel que soit le péché commis, il faut pardonner parce que Dieu pardonne. Donc, quel que soit le positionnement du Seigneur Jésus, ils avaient un objet de dire, voilà, s'il pardonne, alors il contredit Moïse ouvertement. Alors, s'il suit Moïse, alors c'est un imposteur parce que tout ce qu'il vous prêche, lui-même, il ne l'a pas appliqué parce qu'il s'est retrouvé à condamner et à tuer cette femme. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Alors, mais Jésus s'étant baissé, écrivait, verset 6 toujours, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alors, on est dans des suppositions. Donc, on n'est pas encore entré dans la thématique de notre étude. On est dans des suppositions. Mais Jésus, donc, il pose la question à Jésus, le problème, en disant, qu'est-ce que toi tu dis? La loi de Moïse dit qu'il faut lapider. On nous dit que Jésus s'est embaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et il continue à l'interroger, alors il se releva et leur dit que celui qui est parmi vous, qui est sans péché, jette la première pierre. Alors, est-ce qu'il y a une observation qu'on peut faire? Pourquoi Jésus semble ne pas répondre à la question? On est dans des suppositions, bien aimées. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. On médite. Qu'est-ce qui fait que Jésus ne réponde pas tout de suite? Puisqu'ils ont dû insister pour que Jésus réponde. Qu'est-ce qui peut encourageux, un cascadeur pour répondre? Non, mais tu prends le micro si tu as... Est-ce qu'il y a un commentaire à faire là-dessus?
C'est une supposition. Je pourrais dire que parce que Jésus, il connaissait déjà le fond de leur pensée, donc il savait déjà ce qu'ils allaient poser comme question, donc il n'y avait pas besoin de réponse.
D'accord, ok. C'est une supposition. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Rodrigue ou a compris ce que Rodrigue dit? Oui.
Ouais, moi je pense que c'est peut-être parce que Jésus a voulu aussi les laisser que chacun puisse s'examiner avant de répondre.
Pour moi, il a peut-être pris le temps d'analyser la situation avant.
Oui, c'est une supposition. Tout ce qu'on a dit là n'est pas faux, hein, mais moi, je souscris plutôt sur la troisième possibilité et même la deuxième. Hein, c'est que, vous savez, quelquefois, quelqu'un te pose une question, ton silence est une réponse. Il a ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Tu lui t'as pas répondu, juste le fait de regarder la personne, pardon, juste le fait de regarder la personne, parfois, la personne a la réponse. Voilà. Mais il y a aussi ce qui vient d'être dit là. Cette partie nous apprend que, vous savez, quand on est face à une situation, on ne doit pas se précipiter à toujours chercher à donner une réponse. Il faut prendre le temps d'examiner. Prendre le temps de ne pas se précipiter. La Bible dit que celui qui se précipite tombe dans le piège. Et beaucoup sont tombés dans des pièges comme ça. Lorsqu'une situation se présente à eux, tout de suite, il se met en colère, tout de suite, il agit. Et c'est là que le diable peut nous piéger et nous avoir. Donc, il faut toujours prendre le temps. Une situation se présente. Ok, je vais prier. Une situation se présente. On t'annonce quelque chose par le médecin. Avant de commencer à se mettre dans tous les états, vous savez, aujourd'hui avec Internet, surtout avec l'IA, on te donne un nom barbare, tu vas sur Google, tu commences à taper, Et chacun a son avis sur la chose. Mais avant de faire ça, ok, je prends acte. Je vais négocier avec Dieu. Voilà, je veux présenter la situation à Dieu. Et ça, c'est vraiment une attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'une situation se présente. Prenons le temps de... Voilà, comme on dit nous dans notre jargon du travail, faire le pas de côté. Voilà, la situation arrive, je fais le pas de côté, j'analyse et je vois. Alors, comme ils continuent à l'interroger, donc ils insistent. Alors, pourquoi ils insistent? On ne va pas poser la question puisque le temps passe. Je pense que là, ils se sont dit, ah, là, on tient le bon morceau. On tient le bon morceau, là, on l'a eu, puisque la preuve, c'est que il prend le temps pour répondre. Vous savez, quand quelqu'un prend le temps pour répondre, on voit avec des politiques, hein, parfois... On lui pose une question, mais vous savez, mais ce sont des choses qui s'étudient hein, en communication. En communication, on t'apprend la reformulation. Donc on te pose une question. Alors avant de répondre à la question, pendant que tu réfléchis, alors dois-je comprendre que vous me questionnez sur tel plan? Vous voyez comment souvent les hommes politiques font. Donc il va reformuler la question, et peut-être qu'en reformulant la question, le journaliste va apporter un élément qui va l'aider à la réponse. Donc, il sait que si je réponds tout de suite, je tape à côté. Alors, il prend le temps. Il prend son discours. Vous savez, la situation actuelle, nul n'est sans savoir que... Et parfois, il va parler. On ne comprend même pas ce qu'il a dit. Il a parlé pendant 5 minutes en se noie. Bon, ça, ce n'est pas le cas de Jésus. Mais il voit que Jésus ne parle pas. Ils se disent, ah là, on a coincé. Alors, ils insistent. Ils disent, comme ils continuent à l'interroger... Il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Je rigole bien aimé parce que j'aime beaucoup le verset 8. Hein. Vous savez, lorsque je méditais ça, on est dans un combat d'un haut niveau. Les piégeurs piégés. On a dit tout à l'heure, la situation qui se présentait, Jésus ne pouvait aller ni à gauche, ni à droite, parce que quoi qu'il arrive, on va t'accuser. Mais Jésus ne répond ni l'un, ni l'autre. Il dit, ok, d'accord. Puisqu'on veut rester sur la loi de Moïse, alors appliquons la loi. Maintenant, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, qu'il fasse justice. Et le verset 8, on nous dit quoi? Il se baisse pour écrire. Vous savez, les commentateurs de la Bible, ils disent le verset 8, Jésus se baisse puisqu'il n'a plus rien à dire. Et il sait que eux ne vont pas répondre puisque tous, Romains 3:10, quelqu'un peut nous lire, hein, Romains 3:10, celui qui a le micro, Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10.
Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent.
Voilà. Et Romains 3, 23, hein, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, on nous dit que tous ont péché. Et bien aimé, vous voyez, Jésus ramène ces gens-là sur un autre terrain. Il dit, ok, puisque vous venez avec la question de la loi, ce qui est légal, alors moi, je vous ramène aussi à la loi qui vous condamne en tant que pécheur. Donc, dans ce cas-là, que celui qui est juste vis-à-vis de la loi puisse faire justice. Et là, il se baisse. Vous savez, pour certains sportifs, je regarde parfois les joueurs, vous savez, il y a des joueurs, il sait qu'il a marqué avant même de voir le ballon dans le filet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça pour les férus de foot. Hein. Donc le joueur, il fait son action, il frappe, il se retourne. Mais il sait que là, tel que j'ai frappé là, le gardien est battu. Donc il célèbre sa victoire avant même que le ballon soit rentré. Il sait que c'est bon. Lui, il a juste à se retourner pour vérifier que bah, c'est bon, c'est fait. Bien aimé, vous voyez, Jésus sait qu'il a touché un point. Alors, notre exhortation ce soir à l'étude, c'est que ces gens-là veulent ramener Jésus à la loi, à ce qui est bien, ce qui est mal. Tu fais le bien, tu es récompensé. Tu fais le mal, tu es puni, puisque c'est la loi de Moïse qui le dit. Et Jésus amène ces gens-là à autre chose, la logique de la vie. Et c'est ça notre étude aujourd'hui. Le chrétien et la logique de la vie. Dieu veut nous amener dans la logique de la vie. Ce que tu fais, puisque imaginez bien aimé, qui tue cette femme, puisque la loi le dit, ben, qui est gagnant? Qui est gagnant? Parce que quelqu'un a été tué? Quelqu'un créé par Dieu? Le but de Dieu en donnant la loi, c'était de révéler le mauvais cœur de l'homme. En réalité, le but de Dieu en donnant la loi, c'était pas de tuer l'homme seulement, mais de révéler que son cœur est mauvais. Et voyez bien aimé, c'est ce que Jésus fait là. Il dit ok, d'accord. Dans ce cas-là, celui qui est juste, qu'il punisse. Et on nous dit quoi? Accusé par leur conscience. Donc, la réponse de Jésus, c'est ça le travail du Saint-Esprit dans le cœur de chaque humain. C'est ça, bien-aimé. Et notre exhortation aujourd'hui, c'est, il y a deux logiques qui s'opposent ici dans ce texte. La logique du légal, de la justice humaine, hein, parce que ce n'est pas la justice de Dieu, puisque la justice humaine, parce que la preuve, c'est que c'est la femme qui doit être tuée. L'homme, on ne sait pas où il est parti. Donc la justice humaine, elle est partiale, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est sélective. Et bien aimé, c'est la réalité qu'on vit, vous et moi. Commettez juste des faits de malversation comme notre ancien président, bracelet électronique, tu t'en sors très bien. Mais toi, citoyen lambda, fais la même chose. Tu vas voir que tu vas te retrouver en prison. Ça ne sera pas la même chose. Pour les mêmes faits. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Ça nous montre que la loi, la justice humaine, eh ben, c'est une justice qui est teintée de la corruption de l'homme. C'est comme ça, bien-aimé. Et ces hommes qui viennent devant le Seigneur en réclamant justice, Jésus dit, mais sachez que la justice de Dieu, si elle doit s'appliquer, alors elle va s'appliquer envers vous tous. Mais en réalité, ce que Dieu veut, c'est au-delà de la justice, puisqu'il y aura le temps de la justice. Mais ce que Dieu veut, c'est faire grâce, c'est la miséricorde, c'est donner la vie. C'est ça, bien-aimé, notre exhortation aujourd'hui. Et nous partageons ça parce que beaucoup de chrétiens restent bloqués. Ils n'avancent pas avec le Seigneur dans leur relation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la logique morale, le bien et le mal. Ils sont dans une logique chrétienne de mérite. J'ai fait le bien, donc c'est normal, je suis dans mon droit. On m'a fait du mal, donc c'est normal que je réagisse. Mais bien aimé, Jésus vient nous apprendre, et on va le lire, hein, bien aimé, c'est ça que Jésus vient nous apporter. Il dit, on te tape sur une joue, dans l'autre joue. En fait, notre question aujourd'hui, c'est ce que je fais, ce que je pose comme acte, qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que ça produit la vie ou est-ce que ça produit la mort ? Vous voyez, c'est la question que Jésus pose à ces gens-là, sans le dire comme ça, hein, en disant à ces pharisiens, ces scribes, mais l'acte que vous voulez poser là, qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire la vie ou ça va produire la mort ? Est-ce que Dieu serait content qu'on tue une personne parce qu'il est mauvais ? Mais dans ce cas-là, Dieu va tuer tout le monde. Dieu ne serait-il pas content que le mauvais change ses voies et devienne bon ? C'est ça que dit la Bible, hein ? Qu'il y a une fête, une joie dans le ciel lorsque un pécheur se repent. Bien-aimé, vous voyez là où Jésus amène ces gens-là ? Et beaucoup de chrétiens sont dans une logique légale. J'ai droit à ceci, c'est comme ça. J'ai raison. Parfois dans les couples, parfois au travail. Non, c'est moi, j'ai raison. Mais Jésus nous apprend aujourd'hui que la question, ce n'est pas avoir raison ou pas raison. La question, c'est ta position là. Qu'est-ce qu'elle produit ? Elle produit la vie ou elle produit la mort ? Bien-aimé, c'est très profond ce que nous sommes en train de voir là. Et si on n'a pas saisi ça en tant que chrétien, on sera malheureux. On sera dans une logique comptable. Quelqu'un ne te dit pas bonjour, il passe devant toi, il dit bonjour aux autres. Ah, pourquoi il ne m'a pas dit bonjour à moi ? Donc il a un problème. D'ailleurs, ça fait 2 jours, j'ai vu qu'il m'évite. Mais la question c'est, même si tu n'as pas dit bonjour, même si tu estimes qu'il a quelque chose contre toi, la question aujourd'hui, c'est ta réaction à toi, elle produit quoi ? Est-ce que ta réaction à toi, ton attitude, te rapproche du ciel ? Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est ça, bien aimé, notre exhortation. Vous savez, j'écoutais le témoignage de Richard Omrant, qui explique, qui est lui-même d'arrière-plan juif, et qui discutait avec un juif. Et il dit, dans la discussion, comme il est lui-même d'arrière-plan juif, devenu chrétien, qui a fait la prison en Roumanie. Vous savez, le pasteur Moshe nous raconte souvent l'histoire, hein, se partager des morceaux de sucre. Il est même sorti de la prison, il dit qu'il sort de la prison. Vous savez, il sort de prison, il va dans les assemblées, les églises. Mais les gens sont là, ils chantent, ils louent, ils rentrent chez eux. Ils disent, mais non, Seigneur, mais c'est pas ça la vie que je veux. Moi, je veux voir la vie des méchants être sauvé. Il a prié en disant, Seigneur, renvoie-moi en prison. Il dit, quelle joie de voir un mafieux, un homme méchant. Vous savez, en prison, bon, ils ne connaissent pas tous le dossier, mais entre eux, ils savent que, pourquoi lui, il est là ? Oh, on va te dire, lui, il a égorgé quelqu'un. Pourquoi lui, il est là ? Mais vous savez, entre eux, ils ont leur CV, hein ? Et en fonction du CV, ah, tu sais que lui, ah, faut pas trop t'approcher de lui. Et il dit, voir des gens comme ça, s'agenouiller, chanter, prier Jésus. Il dit, mais quelle joie. Il dit, je préfère ça que venir là où tout le monde est bien en cravate, chemise, je suis correct. Mais bien aimé, vous savez, la logique chrétienne, morale, le bien et le mal, c'est je suis correct, je fais de mal à personne. Mais notre exhortation aujourd'hui, c'est dire, le Seigneur ne se contente pas de dire, je suis correct, je ne fais de mal à personne. Non. Puisque tu peux être correct, ne faire de mal à